J'avais fait des critiques dans le Mercure de France pendant un an ou deux. Et puis aussi dans la revue critique, où il y avait, il y a toujours quelqu'un de remarquable, qui s'appelle Jean Piel, et qui voulait des ensembles, comment dirais-je, thématiques, bien que j'aime pas beaucoup ce mot-là. Et j'avais fait un ensemble, selon ses désirs, sur quatre films qui m'avaient semblé parler de la même chose. Le grand malaise ou le grand vertige de l'époque. Il y avait L'Ange Exterminateur, L'Éclipse d'Antonioni, Les Oiseaux, et puis un quatrième peut-être que je me rappelle plus.
Silence, d'Hervé Marquis.
Peut-être. Voilà. Et alors, j'avais continué à faire ces critiques-là parce que ils me payaient le cinéma. Hein, je leur faisais une facture à la fin du mois. Et ils me payaient le cinéma et en plus, royalement, pour mes pages imprimées en caractère, il fallait avoir une loupe pour pouvoir les lire. Je crois que c'était 6 francs la page. Mais une page imprimée faisait 3 de mes pages, alors. Il y avait de quoi payer l'ouvreuse avec cela. Mais je n'avais pas encore la carte de critique. La carte de critique est venue, alors, officiellement, avec les cahiers du cinéma. Là, j'ai eu tout de suite une vraie carte de critique, et avec laquelle je descendais les Champs-Élysées tous les après-midi. Je voyais 3-4 films, un jusqu'au bout parce que je l'aimais bien, et puis les autres, je voyais 10 minutes, au début, à la fin, truc qui n'avait pas d'intérêt, mais pour moi. Et je descendais les Champs-Élysées, et après j'allais dans le bureau des cahiers, où on se retrouvait tous, avec nos impressions toutes fraîches. Et la règle, c'était celui qui s'est passionné pour un film va parler du film. Alors, mais au point, c'était bon comme principe et ça pouvait être vicieux aussi. Parce que si vraiment j'étais arrivé en disant « Les dimanches de Ville d'Avray, je trouve ça extraordinaire », Romère m'aurait dit « Faites la critique ». Sans discuter. Hein. Ah, peut-être que j'exagère la rétrospective. Il aurait peut-être fait la grimace quand même, mais... Il serait donné mal de chien pour m'expliquer que son principe était bon en soi. Il m'aurait fait tout un discours, parce que c'est quelqu'un de très poli et très correct, et qui en plus est un théoricien, dans son âme et conscience. Enfin, tout ça était très sympathique, et puis le soir, cinémathèque.
On a souvent dit que le cinéma est plutôt montré peut-être les objets ou la réalité telle qu'elle était, mais justement, est-ce que dans le jeu de l'espace, dès qu'il y a morcellement, c'est-à-dire dans le morcellement des plans, et tout un jeu de distance, de cache, de l'heure peut s'établir dans l'espace. On dirait que l'espace se construit plan à plan.
Je pense que c'est la vision de certains films où il me semblait que des choses curieuses se déroulaient dans les rapports entre les personnages et l'espace où ils évoluaient. Il me semble que c'est la vision de ces films répétée qui m'a mené sur le chemin de sonder pour moi alors cette chose dont je parlais tout à l'heure. Cette somme d'impressions bizarres que j'avais moi-même en déambulant dans l'espace que vous appelez quotidien. Je me suis... Peut-être qu'un jour, il y a eu quelque chose comme une révélation, une illumination, et en regardant un film, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est ça au quotidien, c'est ça que j'éprouve au quotidien. Ce film-là est en train de me montrer que c'est ça que j'éprouve. Mais peut-être aussi que certains textes littéraires m'avaient déjà induit à le penser et à sonder cette histoire d'espace effectivement quotidien, mais effectivement aussi beaucoup moins simple qu'on le décrit en réalité. Alors ces choses que je voyais dans la mise en scène, au vrai sens du terme, au sens profond du terme, c'est-à-dire la manière qu'avait un tel ou un tel de placer un acteur à tel endroit du décor, ensuite de placer sa caméra à telle hauteur ou à telle distance pour le filmer, et puis ce type-là à telle distance des principaux objets du décor, et puis d'où venait la lumière, et puis la couleur, etc. Tout cela, probablement, petit à petit, a nourri mon idée que l'espace n'était pas homogène. Ou alors, cette idée, cette impression de la vie courante m'est venue des premiers films que j'avais vus, par le jeu du clair-obscur, à Fritz Lang, par exemple, où véritablement, le personnage principal apparaît en pleine lumière, souvent le projecteur carrément braqué sur lui et tout le reste du décor dans la pénombre. C'est peut-être des choses comme ça qui, dès mon plus jeune âge, m'ont converti à l'idée qu'il y avait dans l'espace des choses beaucoup plus complexes qu'on ne disait en réalité, ou tout au moins qu'on me l'expliquait plus tard, à l'école et dans la famille ou dans la plupart des livres ou ailleurs. Et puis, c'était flagrant, bien sûr, chez des cinéastes comme Hitchcock, où il y a tout un jeu aussi sur le naturel et l'artificiel, enfin, ce qu'on oppose comme ça d'ordinaire, ou sur l'intérieur et l'extérieur, ou ce qu'on a l'habitude d'opposer de cette manière-là. Bon, je crois que tout mon effort d'écriture depuis 30 ans et plus a été précisément d'effacer ce genre d'opposition, de montrer qu'elles étaient peut-être utiles à un moment donné dans l'histoire, mais que dans notre temps moderne, surtout celui d'après la Seconde Guerre mondiale, ces oppositions avaient tendance à être caduques et à s'effacer. Et dans ce que j'écris depuis une vingtaine d'années, tout est fait sur l'abolition de l'opposition, par exemple, entre intérieur et extérieur, ou entre temps et espace, ou entre conscience et inconscience. Toutes ces oppositions idéologiques sur lesquelles notre enseignement, notre culture et, bien entendu, l'ensemble massif des médias est toujours fondé.
Il y a très souvent fait cette idée, même dès les débuts du cinéma, finalement, vous parliez de Eisenberg tout à l'heure, mais que le cinéma est finalement contemporain de changements qui sont intervenus dans la physique de Einstein, enfin, d'Evertov. On a cette idée-là quand il dit « je peux filmer le contre-champ à Moscou, et puis le champ, je peux le filmer à Los Angeles », et il y a une abolition de la distance, enfin, vitesse frénétique ou fulgurante, ou Epstein a ces idées-là. Oui. Et même chez quelqu'un qui filme plutôt en plan très, très long, sans trop de morcellement comme Dreyer, où il dit que ce qu'il cherche à obtenir, c'est une quatrième ou cinquième dimension dans l'image, qui dit qu'il y a la dimension de l'esprit. Donc on pourrait croire que c'est plutôt quelque chose de religieux. Et il dit, mais non, pour faire ça, je me base, j'ai lu Einstein.
Il argumente comme ça à propos d'Ordette.
Ordette, oui. Il y a plutôt une image plane et des plans très longs, mais le passage d'un plan à l'autre est particulièrement violent. Il y a très souvent des grands accords.
Oui, mais c'est surtout sensible dans le plan et dans le plan qui dure. C'est probablement pour cela qu'à un moment, je me suis particulièrement intéressé par les tournages en plan très long. Rouge et Skolimowski m'avait passionné avec son exercice de style. C'était son diplôme de sortie d'école à Lodz. Oui, c'est extraordinaire. C'était à la fois un exercice de style et quelque chose de très fort. Mais chez Dreyer, c'est très fascinant. Et chez Bresson, il n'y a pas jamais de plan aussi long chez Bresson que je crois que chez Dreyer. Mais c'est très sensible chez Bresson. Il y a l'espace que vous diriez quotidien, et à partir d'un certain moment, ça se trouble. et on sent qu'il y a un autre espace dans celui qu'on est en train de regarder. Ou alors, comme on dirait aussi, une autre dimension du temps. Mais je n'aime pas parler comme ça parce que le temps n'est pas pour moi une dimension de l'espace. Il n'y a pas la largeur, longueur, profondeur et temps. Le temps et l'espace, c'est la même chose. Et qu'on peut exprimer de deux façons. On peut dire le temps à la place de l'espace ou l'espace à la place du temps. À un moment donné, c'est plus un peu plus temps qu'espace. À d'autres moments, ça serait plus espace que temps. Mais en tout cas, le temps n'est surtout pas une dimension de l'espace. C'est un élément constitutif et qu'on peut rendre sensible par l'écriture, par le langage, l'exercice du langage, par la photographie, par le filmage ou par la musique. Mais quelqu'un de peut-être un très bon lecteur, un très bon auditeur, un très bon spectateur, sentir toutes ces choses-là en regardant un film, en écoutant une musique ou en lisant un livre, et ne pas en tirer de conséquences pour sa vie courante. C'est une chose qui m'a toujours frappé. Il est bouleversé par Murnau ou Hitchcock, ou Dreyer, ou Bresson, et puis il est bouleversé par Kafka ou Flaubert, ou Borges ou Faulkner, et puis ça ne dit absolument pas sur sa façon de percevoir les choses chez lui, ou avec sa femme, ou avec ses enfants, ou dans sa famille. Il devrait avoir une action sur son quotidien, puisque ceux qui ont fait ces choses qu'il admirait et qui l'ont passionné, eux, jouaient l'interaction jusqu'aux limites. Hein. Et bon, enfin, ça c'est un autre problème. Ou alors, ça ne peut jamais frapper qu'une petite minorité de spectateurs qui en tirent les conclusions sur leur vie quotidienne et qui sont profondément touchés et modifiés dans leur vie quotidienne. De toute façon, ça pose un problème de lecture au sens très large, qu'il s'agisse du film ou du livre. Ce qui fait que souvent on regarde un film ou on lit un livre avec une grille de vision ou de lecture qui n'est pas la bonne. Si vous regardez un Dreyer comme avec la grille de lecture que vous avez pour regarder un Lelouch, vous passez complètement à côté, mais c'est ce que font la plupart des gens. En littérature, ça donne le lecteur, le brave lecteur de bonne foi, de bonne volonté, qui lit par exemple un de mes bouquins comme si c'était un roman psychologique. Alors il n'est pas content, il est frustré parce qu'il n'y a pas d'analyse psychologique, il n'y a pas de personnage comme il a l'habitude d'en lire chez Mal et Joris ou des livres de ce genre. Et, alors il voit pas et il en conclut que ça rime à rien, ou ça n'a ni queue ni tête. Bon, ça c'est un grand problème. Il faut être disponible. C'est pas toujours facile. Hein.
Vous avez commencé à écrire. Est-ce que vous connaissiez déjà d'autres critiques de cinéma? Est-ce que vous en aviez lu? Et vous avez commencé à écrire au moment où émerge la nouvelle vague. Est-ce que, par exemple, vous connaissiez les écrits de Bazin ou les écrits de Rivette ou de Truffaut?
Oui, j'ai lu Bazin, bien sûr, mais je ne me rappelle plus à quelle époque. J'étais absent de France de 50 à 56, je crois, et durant cette époque-là, je n'avais pratiquement pas vu de film, ni lu sur le cinéma. Alors peut-être que j'ai commencé à lire les cahiers du cinéma en 57 ou 58, mais en gros, c'est à l'époque où j'ai commencé à revenu à Paris à voir beaucoup de films et à faire la soudure avec ce que j'avais vu entre 45 et 50 et par la même occasion à lire différents critiques. Bon, je crois que je n'avais pas lu beaucoup.
Hein. Parce que je pense à la notion phare à l'époque qui était pour la la notion de spécificité du cinéma qui a été définie, regroupée sous un mot qui est le mot de mise en scène. Or, vous nous parliez tout à l'heure de mise en scène des événements, quelque chose qui serait un lieu commun à la littérature et au cinéma, et votre premier roman s'appelle La mise en scène. C'est pour ça que ça me titillait.
Oui, on mettait l'accent au cahier sur la mise en scène et sur la notion d'auteur. Mais il faut voir ça dans la perspective historique. La notion d'auteur était indispensable à l'époque pour réagir contre une critique qui parlait de tout, sauf du film comme le travail d'un auteur. Bon, cela dit, c'est pas uniquement ça, bien sûr. Et on a fait beaucoup d'erreurs, notamment avec le cinéma américain, où très souvent, et la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, à Hollywood, il n'y avait pas d'auteur. Hein. C'était les producteurs qui faisaient le film et l'équipe, avec peut-être une vingtaine de types qui arrivaient à dominer le problème, des gens comme Walsh, et encore pas toujours, Fritz Lang, et encore pas toujours. Je me rappelle avoir entendu Fritz Lang dans une de ses dernières apparitions à Chaillot, expliquer que pour un film qui s'appelle, je crois, Cloak and Dagger, on lui avait enlevé 40 minutes, en fait. Et que la notion d'auteur, en ce qui concerne lui, très célèbre à cette époque-là, on s'était assis dessus. Bon, mais c'était quand même nécessaire. Ça jouait beaucoup plus pour les Italiens, pour les Français et d'autres. Mais surtout pas pour Hollywood. Mais c'était quand même nécessaire pour donner un certain statut de noblesse à l'œuvre cinématographique. Il y avait Maupassant comme auteur de ses contes, et il y avait Renoir comme auteur de ses films, et pas seulement une équipe, même si l'équipe était consubstantielle au travail de Renoir. Bon, on a exagéré de ce point de vue-là en se trompant parfois d'auteur. Par exemple, en écrasant systématiquement John Huston, et en portant au pinacle tout ce qui sortait de la signature de Minelli. Or, Minelli, quand on les revoit aujourd'hui, c'est pas grand-chose. À part les séquences de danse qui ne sont pas de lui. Bon, c'est le gros cinéma psychologique hollywoodien. Bon, je vous en concède un. Et l'histoire où il y a Kirk Douglas et qui est producteur et
Les Ensorcelés,
The Bad and Beautiful. Celui-là est intéressant. Mais c'est le scénario qui est intéressant. Non. Bon, enfin. En revanche, je me suis aperçu depuis que la plupart des films de Huston étaient très intéressants. Alors qu'on les écrasait de mépris à l'époque. On n'en parlait même pas. Il n'était même pas dans la liste des cinéastes dont on parlait.
Il y a des choses du Stan que j'aime beaucoup, mais que je trouve quand même chez du Stan, cette tendance un peu littéraire, qui moi me passionne pas toujours.
Et pas chez Minelli ?
Et justement chez Minelli, moi je pense que c'est un cinéaste beaucoup plus physique et plastique. Et c'est à mon avis un des plus grands cinéastes, mais pas de manie. C'est pas Arthur Freed, c'est pas la production, c'est pas la MGM, c'est vraiment Minelli.
Bon, ben, le débat reste ouvert pour les générations futures. Ouais. Moi, j'étais très déçu de revoir les films de Minelli. Enfin, bref. J'avais même fait
un... Même comme un torrent, même...
Il y a des qualités certaines dans la... comment disait-on à l'époque, la direction d'acteur. Mais... Ça charrie des histoires tellement, tellement académiques, tellement banales, tellement grosses, avec des conflits psychologiques et moraux tellement pas possibles que moi je peux plus voir ça. Enfin, non, mais c'est ma réaction d'aujourd'hui, ça n'a pas été celle d'il y a 20 ans. Je me rappelle même avoir écrit un jour un article complètement ridicule qui s'appelait « Entre Huston et Minelli » ou bien « De Huston à Minelli ». Qui finalement était si bien le contraire de ce que je jugeais 20 ans plus tard que je l'avais mis au panier et refusé absolument de le faire figurer dans mon recueil. Mais hélas, il doit pouvoir se retrouver quand même dans les cahiers, non pas dans les cahiers, dans la NRF peut-être.
Mais la notion de mise en scène, c'est corollaire à la notion d'auteur, mais c'est justement l'idée qu'il y ait une écriture spécifique.
Non, c'est pas corollaire à la notion d'auteur.
Enfin, les deux ont surgi en même temps comme notion polémique.
Oui, mais enfin, Lelouch fait de la mise en scène, paraît-il. Hein? Il y a la mise en scène au sens strict, qui consiste à disposer simplement les personnages dans le champ, et puis quelques objets, et dire la lumière viendra d'ici. Là. Bon, c'est carrément technique. Et puis, il y a la mise en scène au sens large de création de l'image et de la fiction. Chaque plan, par rapport à ce qui précède, ce qui va suivre, une politique générale de la lumière, par exemple, ou de la couleur. Ça, c'est déjà... À cette époque-là, pour les cahiers, pour nous, c'était la mise en scène comme création de fiction, comme création filmique, au sens très large. Et ça englobait carrément le traitement qu'on avait fait subir au scénario, le choix des acteurs, le tournage proprement dit, le montage. Voilà, c'était ça la mise en scène. Ça dépassait de 100 coudées la simple mise en place des acteurs au moment du tournage. Alors à ce moment-là, il y avait certes des points communs avec la conception que certains pouvaient avoir de l'écriture de fiction. Je dis bien de fiction parce que l'écriture poétique, c'est autre chose. Et puis, il y a toutes sortes d'écritures théâtrales, écritures de dialogue, de pure description, si l'on veut, qui échappent à la fiction. Mais en ce qui concerne le déroulement d'une histoire, la mise en place d'une histoire, donc la façon dont on va faire venir ce qu'on appelle un personnage, et comment on va le décrire, entre guillemets, dans le cadre qu'on lui aura fixé, comment il va se déplacer, cela. À cette époque-là, moi, je pouvais trouver certaines analogies avec la façon dont certains cinéastes faisaient leur travail. Mais ça ne va peut-être pas très loin, parce que il n'y a à la lecture d'un texte littéraire que les images, comme on dit. Et quelles images, c'est difficile à préciser, qui trottent dans la tête du lecteur, et ça n'a rien à voir avec une image de film, et comme son, que la musique procurée par les mots lus de façon très générale à voix muette, même pas à voix basse. Alors, les musiques que ça produit, les sons que ça produit dans la tête du lecteur quand on lit sans articuler aucun mot ouvertement, sont probablement très différents d'un lecteur à l'autre. Et ça n'a rien à voir avec une bande sonore de film. Puis l'écrivain travaille sur des mots et tout ce que ça implique comme connotation, comme référence culturelle chez chacun. Et ça n'a rien à voir avec la confection d'une image par une caméra. Bon. Mais peut-être au niveau sur le plan de cette histoire de relation de l'homme au monde. Là, on peut peut-être trouver des points communs dans la façon d'agir à une certaine époque entre quelques écrivains et quelques réalisateurs de films. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, je crois, sur la question.
Les événements justement de après l'Holocauste, après la guerre de 40, je crois qu'on pouvait peut-être plus concevoir la linéarité du roman, c'est-à-dire que déjà avant, hein, dans les années 20-30, on va comme ça vers un éclatement, mais après, je pense qu'il fallait un peu...
C'est évident pour moi, mais c'est évident... Nous le pensions après la fin de la guerre, en 1945, quand j'ai retrouvé des amis qui avaient été dispersés pendant les années de guerre, des amis avec qui on a parlé de cela pendant des années avant de commencer à écrire ou de faire du cinéma ou de la peinture. Disons de 1945 à 1950, c'était évident qu'on ne pouvait plus faire la même musique Mais ça, les musiciens avaient vu la chose arriver depuis les années 10. Hein. Oui, l'école de Vienne, puis Debussy, et Bartok, et Stravinsky. Et bon. La musique est toujours en avance. Il prévoit toujours les guerres avant tout le monde. Et les architectes aussi. Mais pour ce qui est, pour se limiter à la littérature, on commençait à avoir des velléités d'écrire, mais c'était impensable d'écrire un roman, c'est-à-dire avec des personnages s'opposant les questions qu'on se posait avant-guerre, étant donné que la guerre avait tout déplacé, détruit à peu près tout pour nous. Bon, alors c'était normal de dire ça entre 45 et 50, on pouvait l'expliquer clairement devant des auditoires attentifs et pratiquement ouverts et conquis dans les années 50 et 60. Il se trouve que dans les années 90, ça n'a plus ni qu'une tête de dire ça, et que personne ne voit plus de quoi il s'agit. Étant donné que les vitrines des libraires ne contiennent plus que des romans, comme on écrivait avant-guerre, ou en 19e siècle, à très peu de choses près. Hein. Il y a eu une avancée très nette et très intéressante dans les années 50 et 60, au début, à la fin des années 40, et surtout 50, et jusqu'en 63-64 à peu près. Parce que toutes ces réflexions sur la possibilité de continuation des formes anciennes dans le domaine narratif, c'est-à-dire essentiellement le roman et la nouvelle, étaient remises en question en liaison avec des disciplines comme la linguistique, la psychanalyse, les sciences sociales, le marxisme. Le marxisme n'est pas mort, hein. Il va ressurgir bientôt. C'est pas parce que Lénine et Staline ont fait des bêtises que les analyses de Marx sont toutes fausses. Loin de là. Et ensuite, les disciplines voisines, comme la musique, le film ou la peinture. C'était normal et de parler dans ces termes et de prendre connaissance des choses qui se faisaient à l'époque. Et puis, il y avait des relais, il y avait le relais de la critique, qui était pas mal, et il y avait une vraie nouvelle critique, avant qu'elle sombre dans le structuralisme tous azimuts, qui n'a pas mené à grand-chose. Il y avait le relais de l'université, où les étudiants, les professeurs étaient très attentifs à toutes ces choses-là. Ça durait jusqu'en 68, en gros. 68, mais 68 était l'enterrement. C'était la fin de cette époque. On a fait une espèce de fête, un peu dans tous les sens, qui n'avait pas grand sens, ni du point de vue théorique, ni du point de vue discursif, ni du point de vue historique. Mais c'était sympathique et c'était un point final. Après, depuis 68, c'est une régression de plus en plus rapide dans tous les domaines, et notamment dans le domaine de l'université, de la critique et de la lecture. Le domaine de la critique de cinéma, je ne sais pas, puisque je n'en lis plus depuis longtemps. Mais je ne vais plus au cinéma depuis une vingtaine d'années. Hein. Je ne vois plus que les films. Non, c'est pas parce que je trouve que c'est plus intéressant. C'est parce que je n'habite plus Paris, qu'il n'y a pas de cinéma là où j'habite, et que je regarde la télévision. Quoi. Je suis passé à une autre façon de vivre. Et puis je ne pourrais plus aller dans des petites salles, je suis devenu complètement claustrophobique, je ne pourrais plus rentrer dans une salle de cinéma. Ça, c'est mon problème. Hein. Il y a eu le problème du cinéma de quartier, il y a eu l'époque de la cinémathèque, l'époque des cahiers, et puis ensuite la vie à l'étranger, où je ne voyais pas de films, et depuis mon retour en France, c'est la campagne à la télévision, et nombreux voyages et séjours à l'étranger. Bon, alors je n'ai pas vu de films. J'ai vu deux films depuis 17 ans. J'ai vu Shoah, qui est pour moi le film le plus important depuis la fin de la guerre, esthétiquement et historiquement, et politiquement, dans tous les sens. Parce que historiquement, c'est prodigieux, c'est une tentative qui n'avait jamais été faite jusque-là, et esthétiquement, c'est un usage du son et de l'image qui m'a bouleversé. Et le deuxième, c'est le film sur Thelonious Monk, qui est pour moi un des plus grands musiciens du siècle, dont j'écoute la musique tous les jours, dont j'essaye, avec infiniment de maladresse, de retrouver les compositions au piano, et qui est un individu extraordinaire, bouleversant. Alors je tenais à le voir tel que résumé dans ce film, qui est magnifique aussi, et que j'ai vu deux fois de suite.